broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour.
Nous allons retrouver Cédric Langevin. Bon après-midi à vous, Cédric.
Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. Lancement d'une campagne nationale de sensibilisation sur la COVID-19 ce matin. L'objectif de cette campagne, souligne le Premier ministre, est pour sensibiliser les Mauriciens afin d'empêcher une troisième vague. L'économie devra être relancée, mais sans compromettre à la santé publique, dit Pravin Jugnauth. Et pas de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés lors de la soirée d'hier. Le nombre de cas actifs au niveau local reste donc à 74. Un rallye en soutien à la Palestine. Nouveau défilé ce dimanche. Tous les moyens sont utilisés pour ce défilé monstre qui a démarré à la Citadelle pour se diriger vers Kerpip. Également dans l'actualité, démantèlement de l'épave du MV Wakashio. Des dégâts sur l'édifice récifal sont inévitables, mais la méthode adoptée est moins destructible, estime Vasenko Pemutu. Et justement, le Court of Investigation sur le naufrage du MV Wakashio, la dernière audience marquée par l'interrogatoire de deux gardes-côtes et les révélations du capitaine Alan Stéphane. À l'étranger, en Chine, 21 morts dans une course de fond sous météo extrême. Clôture de la Première Ligue ce soir, match décisif pour Liverpool s'il finira la saison dans le top 4. Pravin Jugnauth a participé ce matin au lancement d'une campagne de sensibilisation sur le coronavirus à Côte d'Or. L'objectif est, dit-il, de faire comprendre à la population l'importance des gestes barrières afin d'éviter une troisième vague. Ainsi, il ajoute la négligence d'une personne qui peut coûter cher à la population. Il rappelle que n'importe qui peut être touché par ce virus.
Maintenant, une leçon qui nous a tiré de sa deuxième vague-là. Je finis de trouver, d'autres même qui manière, une simple négligence, une simple insouciance, des haines du monde, des capables, et nous avons une répercussion bien, bien grave pour toute la population. Aujourd'hui, la situation, le plan sanitaire peut améliorer, mais ça pas veut dire qu'il nous capable d'un relâchement de manges barrières. Et nous vous en rappelle, justement, qui finit arrivé dernière fois. Nous vous en rappelle qu'il n'y Maurice, comment nous trouver ailleurs dans les autres pays du monde, personne pas à l'abri de ce virus.
Le Premier ministre est aussi revenu sur la campagne de vaccination qui est en cours en ce moment. Il souhaite que l'immunité collective soit atteinte au plus vite, cela afin de pouvoir relancer l'économie. Mais, ajoute Pravin Jugnauth, cela devra se faire sans compromettre la santé publique.
Grâce à un vaccin qui nous réussit à acheter, nous pouvons accélérer nos campagnes de vaccination. Et nous souhaitons que dans un proche avenir, nous capables d'atteindre l'objectif qui nous vaccine au moins 60% de la population. Parce que nous voulons qu'à l'activité économique reprend dans tout secteur. Si l'économie bien relancée, seulement bien relancée sans qu'il nous compromette la santé publique. Nous bien faire tout pour le plus tôt capable de réouvrir nouvelles frontières et qui nous retourne à une la vie, Mugadia, un peu plus normal.
Et aucun nouveau cas de Covid-19 enregistré lors de la soirée d'hier. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé dans un communiqué émis ce matin. Ainsi, le nombre de cas actifs au niveau local reste à 74. Depuis le 5 mars dernier, 7 décès ont été attribués à la Covid-19. Et un nouveau défilé en soutien au peuple palestinien ce dimanche. Il s'agit de la 4e mobilisation en soutien au peuple palestinien en une semaine. L'initiative revient à la Mauritius Muslim Association et l'Ottoman International. Le rallye a mobilisé plusieurs centaines de véhicules. Le cortège a démarré à la Citadelle à 10h et prend fin à Kerpip. Donc voici quelques réactions des participants de cette manifestation.
Et là, nous venons d'un défilé palestinien. La Palestine à 100%. La soutenir, mais Israël fait trop beaucoup de milliers. Mais nous pour soutenir la Palestine jusqu'au bout.
Et... pareil, nous avons décidé pour venir ici. Pour mes affaires, c'est pour soutenir la Palestine parce qu'il est mort. Il y a du monde, j'en prends, madame. En fait, moi, nous sommes bombardés, mais pas possible. Et là, pour soutenir la Palestine.
Allez là, vive Palestine, vive Palestine.
C'est Certains patrons utilisent la pandémie comme excuse pour réduire les local leaves des travailleurs, déplore Atma Chantou. Face à la presse vendredi, le porte-parole de la Fédération des travailleurs unis a commenté la détérioration des conditions de travail dans plusieurs secteurs du privé. Il souligne que les employés qui habitent les zones rouges ne pouvaient pas se rendre sur leur lieu de travail car ils n'avaient pas le work access permit et qu'ils n'ont obtenu aucun moyen de transport et de leur entreprise. Ainsi, dit-il, certains directeurs ont réduit les congés des travailleurs en raison de leur absence. Le syndicaliste estime que c'est injuste.
Il y a une détérioration de bonnes conditions d'emploi. L'employeur peut faire l'appli et le bouton. Le ministère n'est pas capable et contrôle la situation. Il est en violation de la loi travail. Et nous comptons très bien qu'il y a actuellement en Kouinaman, village et région, qui trouvent dans le red zone. Personne n'a pas le droit de circuler, bonne travailleur, pour dire qu'ils étaient dans un special work access permit. Et nous constatons qu'il y a bonne travailleur qui ne trouve dans le red zone. Malheureusement, c'est qu'il employait une faire une coupe de tout autre local quand je n'ai pas capable de travailler. Pas fin aussi en gros, il transport pour qu'ils soient capables de collecter mon travail là. Et je ne risque la case, bien sûr, parce qu'il se tient dans l'insécurité. Et dans la majorité de mes cas, l'employeur fait une coupe toujours local libre. Et nous considérons qu'il n'est pas normal qu'on travaille dans une situation le red zone et l'employeur agit ainsi. Et quand nous demandons intervention au ministère du Travail, le ministère du Travail ne peut pas comprendre qu'il fait jusqu'à l'air, bonne protestation que nous faisons faire, et n'a pas répondu, nous, la bonne protestation que nous faisons.
Il évoque également le cas d'environ 5 femmes qui ont été suspendues et n'ont pas touché de salaire depuis 4 mois.
Il y a une compagnie qui fait suspendre 5 madames. C'est-à-dire, ce sont des mères de famille qui les font suspendre pour bonne raison et d'indiscipline selon l'employeur. Et quand la loi lui dit que quand un travailleur est suspendu de ce travail, il est besoin d'être payé jusqu'à ce comité disciplinaire. Mais malheureusement, là, nous remarquons qu'il pendant 4 mois, ce bon travail, il n'a pas gagné de la paye. C'est-à-dire, février, mars, avril, et la paix arrive. Mais ils n'ont pas fait recevoir la paye. Et bien sûr, nous finissons demander intervention au ministère du Travail. Mais là, le ministère du Travail finit informant. Qui jetait bien sûr le directeur, je faisais le conseiller. Malheureusement, personne n'a pas pu prendre téléphone.
Rodrigue a réceptionné au courant de la semaine de 100 000 doses de vaccin contre la fièvre aphteuse. Les autorités rodriguaises comptent commencer dès lundi une vaste campagne de vaccination. Elle concerne les bovins et les petits ruminants. Maurice dispose de son côté 82 500 doses de vaccin. Les autorités locales mauriciennes ont elles aussi démarré la vaccination des bêtes depuis le 19 mai dernier. Et quant à la vaccination à Rodrigue, cette vaccination donc se fera en masse qui débute ce lundi. Démantèlement de l'épave du MV Wakashio, des dégâts sur l'édifice Récifal sont inévitables, mais les méthodes adoptées sont moins destructibles, estime Vasenko Pemutu. Pour l'océanographe, la méthodologie adoptée pour enlever la deuxième partie du MV Wakashio est la plus appropriée car elle est moins destructible. S'il fallait le retirer des récifs, cela aurait davantage endommagé le brisant, indique Vasenko Pemutu. Toutefois, les impacts mécaniques sont inévitables. Des morceaux de coraux peuvent être arrachés, soutient l'ingénieur en environnement. Écoutons Vasenko Pemutu au micro de Dushina Pigadou.
S'il fallait prendre le Wakashio et le tirer à l'extérieur, la deuxième partie, ça aurait encore endommagé les récifs. Donc je pense que cette méthode de le prendre de haut et de l'enlever, je pense que c'est une bonne méthode et qui permettra de réparer le maximum. Mais il est clair qu'il y aura sûrement des impacts mécaniques sur l'édifice récifal. Ça veut dire que ce grappin-là, effectivement, peut érafler ou arracher des morceaux de corail, surtout quand on arrivera sur le fond du Wakashio. Donc je crois que c'est une situation qu'il faut qu'il y ait un monitoring très serré de la part des autorités, de la part des ONG, de la part du ministère de la Pêche, au niveau de l'Albion Fisheries Research Center, pour voir effectivement ce qui s'est passé. Et naturellement, quand l'étude sera faite donc par rapport au ministère de l'Environnement et avec le ministère pour voir l'étendue des dégâts, il faudra définitivement réhabiliter le site et il faudra que les assurances payent pour la réhabilitation du site. Ça va prendre du temps, mais je pense que c'est quand même une approche positive de quantifier les dégâts et ensuite d'aller vers une réhabilitation du lieu.
Une étude sera bientôt menée par le ministère de l'Environnement pour déterminer l'étendue des dégâts causés par le MV Wakashio. Cependant, il faut une surveillance très stricte des différentes parties prenantes, car il faudra réhabiliter le site.
Le Wakasho s'est échoué sur des récifs à Pointe-Destiny. Le bateau a bougé avec la houle et les vagues. Le bateau a bougé et il a tourné sur lui-même. Donc ça a fait un effet de friction, si vous voulez, sur les récifs. Il fait qu'on a eu une poutre de corail qui a été formée avec le bateau qui était là-bas et le récif a été abîmé. D'ailleurs, il y a une étude qui va être menée par le ministère de l'Environnement pour déterminer l'étendue des dégâts, pour voir par rapport aux assurances et par rapport à toutes les compensations qui doivent être payées par l'armateur et l'assurance pour remédier à ces dommages en réhabilitant à travers la plantation de corail ou à travers d'autres méthodes l'environnement tel qu'il est.
Court of investigation sur le naufrage du Wakashio. La dernière audience marquée par l'interrogatoire de deux gardes-côtes et les révélations du capitaine Alan Stephen. Les travaux de cette instance ont repris durant la semaine. Arissa Pirali revient sur les points forts. Les commentaires sont signés Namrata Dilchan.
Lors de son audition, le capitaine Alan Stephan, qui a été porte-inspecteur pendant une trentaine d'années, a déclaré que les autorités avaient été informées des risques de déversement d'huile, d'autant que le Wakashio avait 4000 tonnes de fuel à son bord. Mais selon lui, elle aurait choisi d'ignorer ce détail. Il a aussi soulevé plusieurs questions sur la surveillance des navires dans les eaux de Maurice, notamment l'utilisation de l'Automatic Identification Satellite System et évoqué le manque d'effectifs, notamment un force tracking system pour éviter des accidents de bateau. Le capitaine trouve incompréhensible que la communication n'a pu être établie avec le navire. Le constable Sir Gibbon de la National Coast Guard a affirmé qu'il était de service au poste de Pointe-au-Diable le jour de l'accident. Il dit avoir contacté le Wakashio à cette reprise. Le constable Ojeda, affecté à Fort William, Les Salines, a indiqué qu'il n'avait pas accordé une attention particulière au MV Wakashio, car a-t-il ajouté, il avait d'autres responsabilités ce jour-là. L'ex-juge Abdourafik Hamet a alors lancé une remarque évoquant une possibilité de négligence des gardes-côtes. Les travaux de la Court of Investigation reprendront la semaine prochaine.
L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence.
En Chine, un ultra-trail a tourné au cauchemar samedi. 21 personnes sont mortes après un changement brutal de conditions climatiques sur un terrain montagneux difficile. Les autorités locales sont pointées du doigt. Ils se préparaient à une épreuve, mais ils ont vécu l'enfer. Samedi, 172 coureurs se sont lancés et lancés en short et t-shirt à l'assaut de 100 km de chemin dans les montagnes de Gansu, une province accidentée du nord-ouest chinois. Mais en fin de matinée, après une vingtaine de kilomètres de course, le temps s'est fortement dégradé. Pluie glacée, grêle, vent violent. Des rescapés racontent qu'ils sont restés prostrés, ne pouvant plus avancer face à la puissance du vent. Après des appels à l'aide de plusieurs participants, la course est annulée et les secours renvoyés. Mais ils progressent doucement sur un terrain accidenté alors que les conditions continuent d'empirer. Ce sont un millier de secouristes qui quadrillent le terrain à la recherche des disparus. Dimanche matin, la dernière victime a été retrouvée. Au total, 21 coureurs ont perdu la vie, dont deux champions chinois de la discipline morts d'hypothermie pour la plupart. Sous le feu des critiques, le gouvernement local a présenté ses excuses ce dimanche matin. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à un respect complet du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, une position commune prise après plusieurs jours de blocage des États-Unis. Il aura fallu 12 jours, une escalade de tensions historiques et un cessez-le-feu d'abord négocié en coulisses pour que le Conseil de sécurité se prononce de façon unie sur le dernier conflit israélo-palestinien. Et cette fois-ci, les États-Unis n'auront pas bloqué le Conseil de sécurité après avoir refusé 3 propositions de déclaration ainsi qu'un projet français de résolution sur le conflit opposant Israël et le Hamas. Washington s'est joint aux 14 autres membres samedi et dans une déclaration commune, ils ont salué l'annonce du cessez-le-feu qui a débuté vendredi, appelé à son respect complet, déploré la perte des victimes dues aux violences. Et depuis le début des affrontements le 10 mai, au moins 248 Palestiniens, dont 66 enfants et des combattants du Hamas, ont péri dans les frappes israéliennes, tandis que 12 personnes, y compris un enfant, une adolescente et un soldat, ont été tués en Israël par les roquettes tirées depuis la bande de Gaza. La coulée de lave descendue des flancs du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo jusque là vers la ville de Goma semble s'être arrêtée dans les faubourgs de la ville, a constaté ce dimanche matin un vidéaste de l'AFP. La coulée de lave a cessé sa progression durant dans le courant de la nuit pour s'immobiliser dans les faubourgs nord-est de la ville. Du feu et de fortes émanations se dégagent néanmoins du front de lave rocheux noirâtre et toujours instable. Nous passons au rappel des titres. Lancement d'une campagne nationale de sensibilisation sur la Covid-19 ce matin. L'objectif de cette campagne, souligne Pravin Jugnauth, est pour sensibiliser les Mauriciens afin d'empêcher une troisième vague. L'économie devra être relancée mais sans compromettre la santé publique, dit Pravin Jugnauth. Et pas de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés lors de la soirée d'hier. Le nombre de cas actifs au niveau local reste donc à 74. Rallye en soutien à la Palestine, nouveau défilé ce dimanche. Tous les moyens sont utilisés pour ce défilé monstre qui a démarré à la Citadelle pour se diriger vers Curepipe. Et également dans l'actualité, démantèlement de l'épave du MV Wakashio, des dégâts sur l'édifice Récifal sont inévitables, mais la méthode adoptée est moins destructible, estime Vassane Kopemoutou. Justement, la Court of Investigation sur le naufrage du Wakashio, la dernière audience marquée par l'interrogatoire de deux gardes-côtes et les révélations du capitaine Alan Stephen. À l'étranger, en Chine, 21 morts dans une course de fond sous météo extrême. Et clôture de la Première Ligue ce soir, un match décisif pour Liverpool s'il finira la saison dans le top 4. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La suite c'est avec Bouria.
Merci beaucoup Cédric.